Vous avez remarqué que la déco dans cette église a changé? Non? Vous regardez votre église quand vous entrez dedans? Il y a des cadres, il y a des beaux luminaires. Je ne sais pas à qui on les a piqués, mais en tout cas, il y a une porte. Il y en a qui a une porte en moins chez lui, je ne sais pas qui. J'espère que ce n'est pas une porte qui ouvre sur l'extérieur. Il y a un fauteuil avec des fleurs. C'est pourquoi tout ça? Ça vous rappelle quelque chose? Non, ça ne vous rappelle pas chez vous, non? Il n'y a pas ça chez vous? Il y a des beaux cadres, des beaux luminaires, un beau fauteuil, une belle moquette. Ben, c'était l'idée en fait. C'est dur hein, de transformer cette salle en maison, comme c'est certainement chez vous, intime, bien décoré, quelque chose de plus convivial. C'est pas facile, c'est un défi. Hein. Enfin, c'est l'idée. L'idée qu'on veut transmettre pendant ces quelques semaines, parce que nous allons parler de l'Église sous une autre forme, qui peut aussi se passer ou se faire dans d'autres lieux, d'autres endroits que ceux que nous connaissons, ceux que nous pratiquons, comme ici, dans cette salle. Parce que vous avez remarqué, hein, cette salle, elle est tout sauf intime, c'est pas tout à fait un cocon comme chez soi, c'est quelque chose de purement fonctionnel. On a mis 4 murs, des chaises, et voilà, c'est fait. C'est notre église, au sens où beaucoup de gens l'entendent aujourd'hui. Mais on va aller plus loin et on va ensemble revenir sur ce thème de l'église, un thème que on a déjà eu l'occasion d'aborder il n'y a pas si longtemps que cela, il y a un an maintenant. C'était le premier thème de l'année 2017 que nous avons abordé sur plusieurs semaines. Et Ulrich, Xavier et moi-même, on a eu l'occasion de parler ensemble de ce qu'est l'Église. Et nous allons revenir sur ce thème, alors peut-être pas aussi longtemps, parce qu'on a déjà dit un certain nombre de choses, mais on va y revenir ensemble aujourd'hui et probablement dans les semaines qui viennent aussi, parce que nous désirons franchir une nouvelle étape dans le changement, l'évolution que nous sommes appelés à connaître dans cette Église, toujours dans le but, bien sûr, de favoriser la croissance spirituelle. Le but de l'Église, l'un des buts, c'est vraiment d'aider les croyants de cette communauté qu'est l'Église locale, de grandir spirituellement et puis de remplir sa mission aussi, puisque Jésus nous a confié une mission, de renforcer ses liens, ceux qui nous unissent à Dieu, à Christ, et puis ceux qui nous unissent les uns et les autres. J'en profite pour rappeler les trois axes de l'Église, ceux qu'on a eu l'occasion de répéter, de développer bien des fois. Ces trois axes, quand on se pose la question « qu'est-ce que l'Église ?», c'est d'être tourné vers Dieu, c'est bien ce qu'on vient de faire ensemble au travers de l'adoration. C'est vraiment la dimension verticale de notre vie d'Église, par la louange, l'adoration, la prière, le repas de Sainte-Cène, la fraction du pain. C'est d'être tourné vers les autres aussi, les autres ou notre prochain qui est à l'intérieur de cette Église, qui fait partie de cette Église, et cela, bien évidemment, au travers de la communion, la relation fraternelle, et puis aussi d'être tourné vers notre prochain à l'extérieur de l'Église. Ça correspond à la mission que Jésus nous a donnée. Ça peut se faire, bien sûr, sous la forme de la proclamation de l'Évangile ou du témoignage personnel que nous sommes appelés les uns et les autres à porter autour de nous, ou encore de l'action sociale lorsqu'on vient en aide aux plus déshérités, aux plus démunis, de ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est la feuille de route, on peut dire, que Jésus a donnée à ses disciples pour tous les temps. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, doit, dans le cadre de l'Église, doit respecter ces trois axes, en fait. Et si vous regardez de près un peu ce que nous faisons, ce que nous avons comme activité, ben ça tourne toujours autour de ces trois axes que Jésus nous a donnés, de cette feuille de route. Jusqu'à aujourd'hui, tout cela s'est fait, à partir du moment où c'est organisé par l'Église, essentiellement dans un même lieu, dans un même endroit, c'est-à-dire dans ces locaux. Cette salle, les locaux qui sont autour et qui nous servent, là, comme ce matin, pour accueillir les enfants, par exemple. Et nous allons, bien sûr, continuer de le faire ainsi, mais nous allons aussi continuer de le faire dans ce genre de local, mais un peu plus grand, dans on ne sait pas combien de temps encore, des locaux qui seront plus adaptés à nos activités, à nos besoins. Mais la différence avec ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, c'est que nous allons ajouter à ce que nous faisons dans un seul espace, un même espace, comme ici dans ces locaux, nous allons le faire aussi dans d'autres espaces. On va dire, ah bon, vous avez déjà prévu d'avoir d'autres salles, d'autres lieux dans cette ville. Et oui, on a déjà toute une liste de lieux où on va pouvoir se rassembler pour vivre l'Église, pour continuer l'Église. Et ces lieux, ben, c'est votre maison. Pratique, hein? C'est là, c'est déjà fait, c'est pas cher, c'est déjà chauffé, éclairé et tout. Et c'est ce qu'on appelle les groupes de maison. On a déjà évoqué la question. Bien évidemment, nous aurons un temps pour expliquer un peu comment ça va se mettre en place. On a déjà, vous pensez bien, travaillé sur ce projet. Il y a une phase de, on peut dire, de conception du projet, de réflexion, de formation d'équipe aussi, qui a duré plus d'un an. Et nous entrons à partir de ce mois de février 2018 dans la phase de la réalisation de ce projet. Toute la partie technique, toute la logistique du dispositif, tout cela, ça sera expliqué plus tard, je ne vais pas le faire ici. Ce matin, ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est voir pourquoi les responsables de cette Église, notamment le Conseil spirituel, a pensé qu'il était important de faire cette proposition à l'Église. Parce que ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un gadget qu'on veut ajouter. C'est vraiment répondre à ce que Dieu a mis sur notre cœur depuis maintenant pas mal de temps. Et bien sûr, répondre aussi à la vision que nous avons dans cette Église, puisqu'on s'attend à ce qu'il y ait, dans les mois qui viennent, un peu plus de monde encore, qui s'intéresse à l'Évangile, qui rejoigne cette Église, cette communauté. Donc, on va voir ensemble ce matin trois points. Voilà ce que j'ai choisi. Qu'est-ce que l'Église ? Un petit rappel, une petite piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal de temps en temps, mais on va surtout voir les facteurs de croissance de l'Église, tels que nous les trouvons dans le Nouveau Testament, et on va s'arrêter sur la pierre principale qu'est l'Église. Vous avez deviné qui est cette pierre, certainement. D'abord, qu'est-ce que l'Église ? Et on va lire ce texte. C'est le texte que j'avais choisi l'année dernière lorsque je vous ai parlé de l'Église. Et on va revenir sur ce texte dans 1 Pierre. Il y a bien d'autres textes qu'on pourrait prendre, bien sûr, qui parlent de l'Église. Mais dans 1 Pierre, chapitre 2. Pierre dit la chose suivante. Il s'adresse à ces chrétiens, c'est ceux qui font partie de l'Église, c'était la pr- première église, l'église du premier siècle. Et il leur dit ceci: rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Vous voyez, c'était encore des choses qui pouvaient se trouver dans l'église et qui peuvent se trouver dans l'église. Donc il les exhortait à rejeter cela, mais en leur disant: désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté. Quand on parle de lait frelaté aujourd'hui, on ne va pas parler de Lactalis, mais ça fait penser à l'actualité, ça, les choses qui se passent en ce moment. Là, ce n'est pas du lait Lactalis, vous voyez, c'est le lait spirituel qui est la parole de Dieu, un lait, il y a d'autres versions qui parlent de lait pur, hein, de bonne qualité, donc qui est la parole pour les nouveau-nés. Donc vous voyez la métaphore que Pierre fait entre les chrétiens et les nouveau-nés, comme des nouveau-nés qui ont besoin de la parole pour grandir, pour croître, afin que par lui, donc par ce lait, hein, qu'est la parole, vous croissiez pour le salut, salut que nous avons reçu en Christ. Et leur dit: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il s'adresse à ceux qui ont goûté, pas seulement entendu, hein, au sujet de la bonté de Dieu, mais qui l'ont goûté en fait, qui ont reçu cette bonté, qui ont été les bénéficiaires de la bonté de Dieu, qui ont reçu cette vie. Donc, si vous faites partie de cela, il leur dit maintenant: approchez-vous de lui. Alors, ce sont déjà des hommes et des femmes qui se sont déjà approchés de Christ, bien sûr, mais qui sont appelés à continuellement s'approcher. C'est ce qu'il veut dire. Continuez de vous approcher de lui, ne vous arrêtez jamais de venir à lui, qui est, et là il change de métaphore, il parle de pierre, pierre vivante, parlant de Christ, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, et là il s'adresse à eux, ces chrétiens dans l'Église, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc là, il fait bien sûr la comparaison, le lien avec le temple de Jérusalem, le lieu très saint dans lequel il y avait la présence de Dieu. Il dit, ben maintenant, c'est vous, lorsque vous êtes réunis, vous qui êtes ces pierres vivantes, eh bien, vous êtes là, rassemblés, et vous formez le Saint des Saints, le lieu où Dieu vient et demeure et descend et se manifeste, et dans lequel vous offrez des victimes spirituelles. Il fait allusion, bien sûr, à ces sacrifices qui étaient faits dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, bien sûr, nos sacrifices à nous sont des sacrifices de louange, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dira à la fin de cette lettre aux Hébreux, agréable à Dieu par Jésus-Christ, car il y a dans l'Écriture, donc ces paroles, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, donc la pierre principale, choisie, précieuse. » Donc c'était déjà le prophète Ésaïe, au chapitre 28, hein, qui avait annoncé cela. Et Pierre cite Ésaïe ici, « Et celui qui croit en elle ne sera pas confus ou dans la honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Ça, c'est le texte de Pierre. Pierre, lui, était le premier à entendre Jésus parler de l'Église. Et vous connaissez certainement les circonstances, ça a été rappelé il n'y a pas longtemps, notamment par Ulrich, lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondra, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondra, « Voilà, tu as bien répondu, Pierre, cela ne vient pas de la chair et le sang, mais de mon Père, donc, et il lui dira, voici ce que je t'annonce, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Il ne dit pas, je bâtirai une Église, je bâtirai l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Il se présente ici comme le constructeur, bien sûr, l'architecte, on peut dire, le constructeur, le bâtisseur de cette Église, mais aussi comme le propriétaire permanent, en fait. C'est lui le propriétaire. C'est son Église, ce n'est pas notre Église. Parfois on dit, hein, tu viens dans mon Église. C'est une façon de parler, on peut le faire bien évidemment, mais on sait au fond de nous-mêmes que ce n'est pas notre Église, ce n'est pas l'Église d'une institution quelconque, c'est l'Église de Christ, c'est son Église. Si on devait poser la question aujourd'hui, on allait dans les rues d'Angers par exemple pour poser la question, mais c'est quoi l'Église pour vous? Il est probable, je n'ai pas fait le sondage, mais bon, je m'en doute un peu, il est probable que beaucoup, beaucoup répondraient en parlant d'une institution, qu'ils connaissent. Ils pourraient dire, tiens, ben, c'est l'Église catholique. Certains peut-être diraient, ben, c'est l'Église protestante. Et si on a un peu de chance, il y en a qui pourraient dire, c'est l'Église évangélique. On aimerait bien, mais il y en aurait peut-être peu qui répondraient ça. En parlant d'une institution, en fait, d'une organisation humaine. Certains répondraient certainement, puisque ce ne serait pas difficile ici à Angers, on est souvent très près d'une chapelle, d'une cathédrale, d'un lieu de culte de ce genre, et ils pourraient nous montrer voilà, un bâtiment en disant ben, « c'est ça l'Église ». Pour beaucoup de gens, ça se limite à cela en fait. Dans le Nouveau Testament, chaque fois que ce mot est utilisé, il est utilisé pour parler d'hommes et de femmes, de personnes. Et s'il fallait donner une définition de ce qu'est l'Église selon le Nouveau Testament, je dirais ceci, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui a entendu, ce groupe, le message de l'Évangile, le message du Christ, dans lequel Christ se révèle, montre qui il est, son identité, et ce qu'il a fait. L'œuvre qu'il a accomplie, son ministère, tel qu'on découvre dans les Évangiles, l'essentiel de son ministère, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Ces hommes et ces femmes, en entendant ce message, ont cru, ont reçu ce message pour recevoir Christ comme leur sauveur personnel, et pour qu'ils deviennent le maître, le seigneur dans leur vie, celui qu'ils désirent aimer, suivre et servir. Et là, dans ce groupe, peu importe l'étiquette que vous lui donnez, c'est pas grave du tout, vous pouvez l'appeler centre évangélique, église, de toutes sortes, c'est pas grave. À partir du moment où ce sont des hommes et des femmes qui ont entendu le message de l'Évangile et qui ont découvert qui est Christ, ce qu'il a fait, et qui ont cru dans son œuvre et dans sa personne et qui sont attachés à lui comme leur sauveur personnel pour le servir et le suivre, ben c'est ça l'Église en fait. Je crois que ça résume bien ce que nous sommes. Non ? Je vous apprends quelque chose là ? Selon Pierre, ce groupe de disciples réunis constitue ce saint des saints en fait. Cette maison spirituelle, comme il le dit dans son épître, ce sanctuaire, ce lieu très saint. Vous savez, c'était le grand plan de salut, le grand projet de Dieu dans ce plan de salut qui nous est raconté dans toute la Bible. Après la chute, il y a eu, en Genèse 3, l'expulsion d'Éden, du jardin d'Éden. Et Dieu n'était plus présent, en fait. Et le plan du salut, c'est le retour de la présence de Dieu. Alors, ce retour s'est fait par étapes. Ça a été ponctuel, au travers d'holocaustes, de sacrifices, d'autels. Ça a été, par exemple, Moïse, lorsqu'il a été devant ce buisson qui ne s'arrêtait pas de brûler. Et Dieu va lui dire, là, à travers ce buisson, tu es dans un lieu qui est saint. Là, c'était la présence de Dieu. Cette présence sera permanente dans le tabernacle, la tente qui va être dressée au centre du camp dans le désert. La présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Plus tard, ce sera le temple de Jérusalem avec la présence de Dieu. Et puis dans les évangiles, vous le savez, ça sera plus sur une montagne. Ce que Jésus dira à la Samaritaine. La Samaritaine pensait qu'elle... Il fallait adorer Dieu sur telle montagne, et Jésus dira, non, non, les Juifs adorent sur une autre montagne. Il dit, mais le moment arrive où c'est fini tout ça. C'est fini. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il est au milieu des adorateurs réunis, en fait. Et l'apôtre Pierre prend cette image du temple de Jérusalem pour parler de l'Église et de Christ. Lui-même, vous savez qu'il verra son nom changé par Jésus. Il ne s'appelait pas Pierre à l'origine, il s'appelait Simon, fils de Jonas. Et Jésus lui dit, tiens, je vais t'appeler Pierre, ça correspond mieux à ce que tu vas devenir, ou en d'autres termes, à ce que je vais faire de toi. C'était tout sauf quelqu'un de stable, hein, cet homme, et on le voit dans le cours des évangiles, son instabilité, ça nous a été rappelé encore la semaine dernière par Guillaume lorsqu'il a renié Jésus. malgré tout ce qu'il avait, toutes ses bonnes intentions, bien sûr, et tout ce qu'il croyait être. Et Pierre reprend cette image. Il dit, bien, Christ est la pierre principale, la pierre vivante par excellence. Mais nous qui sommes ses disciples, nous sommes aussi ses pierres vivantes. Il s'adressait au travers de cette lettre à des hommes et à des femmes qui étaient d'origine païenne. Il ne s'adresse pas à des chrétiens de Jérusalem qui étaient d'origine juive, bien sûr, mais il s'adresse dans cette lettre, la première lettre, il s'adresse à ceux qui, à ces chrétiens qui étaient dans cette partie d'Asie qu'on appelle l'Asie mineure, qu'on appelait l'Asie mineure à l'époque, la Turquie aujourd'hui, et dans ces chrétiens qui, pour la plupart, venaient, étaient d'origine païenne, ils avaient eux l'habitude, dans leur culte païen, de se prosterner devant des statues de pierre, justement, de bois et d'autres matériaux. Et là, Pierre reprend la même image, mais il dit non, non, là, ce sont des pierres, c'est une pierre vivante, et vous êtes une pierre vivante. Vous êtes appelés à vous approcher de lui. Et quand vous approchez de lui, vous recevez la vie. C'est pour ça que vous recevez. Vous êtes cette pierre vivante. C'est pour ça qu'il parle de bébés spirituels qui ont besoin d'être nourris de ce lait qu'est la parole de Dieu. Parce que maintenant que vous avez reçu cette vie, comme toute vie, hein, ici-bas, elle est appelée à grandir, à croître, à se développer. Et c'est la même chose pour nous, bien évidemment. C'est ce que Pierre dit à ses premiers chrétiens. Il dit, maintenant que vous avez reçu cette vie, vous avez besoin de grandir, de croître. Et pour cela, Dieu nous a donné sa parole. On va regarder ensemble ces facteurs de croissance, en fait. Puisque c'est de cela dont il s'agit. Et l'Église, Christ l'a voulu pour que ses disciples, ces pierres vivantes puissent grandir, en fait, se développer. Les facteurs de croissance, on a ce texte dans le livre des Actes des Apôtres. Si tu peux mettre Actes des Apôtres, c'est ainsi que Luc, donc l'auteur du livre des Actes, nous rapporte ce qui s'est passé tout au début, au moment où Pierre va annoncer l'Évangile, le jour de la Pentecôte, et environ 3000 d'entre eux vont se convertir. Il nous dit donc au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. » Et ces personnes, donc, alors il y en avait certainement beaucoup qui venaient de d'autres pays parce que c'était une fête à pèlerinage, beaucoup venaient pour la fête religieuse de la Pentecôte et sont repartis certainement, mais certains et un grand nombre a dû rester à Jérusalem, et ceux qui sont restés à Jérusalem, il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce qu'on peut appeler les facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, c'est ce qui était fait, pratiqué au sein même de cette première église de Jérusalem qui était dirigée par ces apôtres, ces hommes que Jésus avait appelés, formés, pour conduire par la suite cette église. Il parle donc de ces quatre éléments qui peuvent assurer cette croissance spirituelle. C'est d'abord la parole, l'enseignement des apôtres, qui était communiqué par les apôtres, eux-mêmes l'avaient reçu de Jésus. Ils avaient été formés par Jésus. Donc il y a cet élément qui est la parole de Dieu, la communion fraternelle, la relation entre les chrétiens, la fraction du pain, donc le souvenir de la mort de Christ, de son sacrifice, et puis les prières sous toutes les formes. Hein. La prière, ce n'est pas seulement prier pour demander. Si vous prenez ce qu'on trouve dans le livre des psaumes, qui est un livre de prières, il y a toutes sortes de prières. Il y a les prières qui sont des prières de repentance, de supplication, On demande le secours de Dieu, et puis des prières de louange et d'adoration, bien évidemment. Et David va apporter toutes sortes de prières. Et ce livre, comme vous le savez, le livre des psaumes, c'était aussi des cantiques. Il y avait une musique dessus, donc ces prières étaient chantées, comme on l'a fait ce matin. Et quand vous regardez parfois les paroles de nos cantiques, on retrouve pas mal de textes bibliques. En tout cas, ce sont des vérités bibliques. Et parfois des citations bibliques, parfois même des psaumes qui sont mises en musique et que l'on peut adresser à Dieu comme on l'a fait ce matin, comme Pierre le dira dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est pour apporter ces sacrifices de louange en fait. Mais il nous dit, si tu peux remettre le texte s'il te plaît, il nous dit il persévérait. Ce mot-là est intéressant. Il y a des versions qui disent qu'ils étaient entièrement dévoués, entièrement consacrés. Ils continuaient avec fermeté ou avec vigueur. On pourrait traduire par « ils persistaient sans relâche ». Ou encore « ils se donnaient entièrement ». Vous voyez, c'est quand Luc nous rapporte ce que faisaient ces chrétiens lorsqu'ils se réunissaient, c'est pas quelque chose d'occasionnel. En fait, ils le faisaient tous les jours à ce moment-là. Et c'était un engagement total, en fait. C'était pas, tiens, aujourd'hui, je vais aller à l'église, j'ai rien d'autre à faire, tiens. Il pleut aujourd'hui, voilà. Hein. Mais s'il avait fait beau, s'il avait fait 25 degrés, si la plage était à quelques kilomètres, c'était pas ça. Hein. C'était non, c'est une priorité. Il persévérait. Ils étaient entièrement consacrés, ils savaient que c'était vital pour eux, pour leur vie spirituelle, pour leur développement, leur croissance spirituelle. Parce que le but recherché, c'était cela, c'était de grandir spirituellement. Comme Pierre le dira, la parole c'est le lait, c'est aussi la viande, pour ceux qui sont arrivés à une maturité spirituelle, comme Paul le dira dans un autre texte. Donc chaque chrétien est engagé dans cette connaissance biblique. Et s'il est engagé dans cette connaissance biblique, il est assuré de cette croissance spirituelle. Et donc d'une bonne santé. Hein? Quand vous avez un nouveau-né, un bébé, s'il mange bien, en général ça se passe bien, vous voyez ce que je veux dire. S'il ne mange pas, moi ça, quand j'étais nouveau-né, ça a fait peur à ma mère, parce que je ne mangeais pas. Je perdais du poids tous les jours. Là, c'est la panique, vous voyez. Mais un enfant qui mange, qui prend son biberon régulièrement, et on le pèse toutes les semaines, et puis ça y est, prend du poids, et c'est parti. Il est en bonne santé, le signe d'une bonne santé. Et c'est la même chose pour nous, en fait. Si nous avons cette soif, cette faim de la parole, et que nous sommes nourris de cette parole, on va être rassasié, on va être désaltéré. Et forcément, on va prendre des forces. On va grandir, on va se développer. Et une église dans laquelle tout le monde est en bonne santé, vous voyez, ben, l'église elle sera en bonne santé aussi. Tout le corps sera en bonne santé. C'est l'image du corps que Paul a donnée pour parler de l'église. Comparer l'église au corps. Forcément, si toutes nos cellules elles sont bien portantes, ben, le corps est bien portant aussi. Et une église qui est en bonne santé, elle va bien remplir sa mission, parce que derrière cela, il y a une mission aussi. On l'a vu, les trois axes, être tourné vers Dieu, tourné vers notre prochain à l'intérieur, mais tourné aussi vers notre prochain à l'extérieur. Ça, c'est la mission que Jésus a donnée à l'église, c'est la vision. C'est ce qu'il dira à ses disciples dans Matthieu 28, hein, vous connaissez bien ce texte. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisez-les, et enseignez-les, tout ce que je vous ai prescrit, en fait. Voilà, c'est ce que Pierre, Jacques, Jean et les autres faisaient à Jérusalem. Quand il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, les apôtres leur apportaient cette parole, comme Jésus leur avait dit. Allez maintenant, une fois que vous avez baptisé, vous allez maintenant les enseigner tout ce que je vous ai prescrit, parce que c'est ce qui va les faire grandir. C'est votre mission. Alors la mission des premiers apôtres, elle a commencé bien sûr à Jérusalem. Et Jésus leur dira, vous allez commencer là, après la Judée. Mais après la Judée, il faudra aller en Samarie. Et puis après la Samarie, il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on sait que ça a été assez difficile. Je ne veux pas revenir sur les détails, vous connaissez cela pour beaucoup d'entre vous, c'est raconté dans le livre des Actes. Mais pour un homme comme Pierre, c'était difficile d'aller dans la maison d'un païen et d'apporter l'évangile à un païen et de croire que les païens pouvaient être aussi être sauvés de la même manière qu'ils l'avaient été. Il a fallu que Dieu là parle fortement au travers de visions à Pierre pour qu'il puisse aller dans la famille de Corneille et apporter l'évangile à cette famille païenne. Mais ils vont le faire à la faveur de persécutions qu'ils vont connaître à Jérusalem. Les disciples vont aller à ce moment-là dans d'autres régions, notamment Samarie. Et c'est par ce moyen-là qu'un homme comme Philippe, qui était un diacre à Jérusalem, va devenir un évangéliste et il va apporter l'évangile. Il va y avoir là, à Samarie, un grand nombre de chrétiens et une église qui va se constituer dans cette région de Samarie. Et puis on aura la même chose dans d'autres villes de l'Empire romain de l'époque, et notamment à Antioche, qui va devenir la principale ville, la principale église, pendant une période. Et là, pareil, dans cette église, il y avait du beau monde, hein, quand même. Il y avait un homme comme Paul, Barnabas. Ils aimaient bien avoir ces enseignants, ces chrétiens d'Antioche. Ils les voyaient le dimanche, ils enseignaient la parole. Puis un jour, dans un temps de prière, de jeûne et prière, il nous a dit, Saint-Esprit va dire, ben, vous voyez ces deux-là, ces deux hommes-là, ces deux apôtres, ben, je voudrais qu'ils aillent maintenant apporter l'évangile dans d'autres régions du monde. Ça n'a pas dû être facile. Hein? Ils étaient attachés à ces hommes, ils étaient des bons enseignants. Jésus dit, mais j'ai une mission. L'Église a une mission. Elle est appelée à envoyer. Alors, il y en a qui partent en mission, mission spécifique. Nous, on en a de cette Église, hein, qui sont partis en mission. Ils sont sur un champ de mission actuellement. Et puis, dans l'Église, on est tous des missionnaires aussi. Ça a été rappelé il y a quelque temps. Puis notamment par rapport à notre vision, puisque notre vision, c'est bien sûr de répandre l'Évangile le plus possible dans cette ville et de faire connaître son nom. Et lorsque Dieu nous a parlé de multiplication, de croissance numérique, il faut se préparer à cela, bien sûr. Alors pour cette préparation, il y a un projet immobilier qui est en cours. C'est un outil, c'est pas un but en soi. Ça a été dit et rappelé. Mais il y a un projet d'église surtout, pour renforcer les facteurs de croissance justement, qu'on vient de voir. Particulièrement l'enseignement, la connaissance biblique, la formation. Donc il y a une formation spécifique qui est donnée pour ceux qui veulent approfondir la connaissance de la parole. Et puis il y aura des groupes de maisons aussi. Pour cela, on peut revenir sur ce qui s'est passé encore dans l'église de Jérusalem. Bien sûr, ce qui nous est dit de l'église de Jérusalem, c'est pas quelque chose de codifié, c'est pas une méthode imposée pour toutes les autres églises. Il nous est raconté ce qu'eux ont fait, et ça peut nous servir, et ça doit nous servir, de repère justement, pour voir comment nous pouvons mettre en place certaines choses. Pour que ces facteurs de croissance soient toujours présents dans l'Église et que l'Église puisse se développer et continuer à se développer. On n'est pas dans l'Ancien Testament, vous voyez, dans l'Ancien Testament, tout était codifié. Jusqu'aux vêtements du prêtre, il ne pouvait pas porter ce qu'il voulait. S'il voulait venir en jean au temple, ce n'était pas possible. Il devait avoir des vêtements de lin et spécifiques et une tiare, enfin voilà. Voilà, moi je suis content d'être... Ouh, vous imaginez? Tout était codifié, l'Ancien Testament. L'heure du sacrifice. Quel sacrifice il fallait faire? À quel moment il pouvait entrer dans le lieu très saint? Enfin, tout était minuté, tout était codifié. On est dans la nouvelle alliance. Et bien évidemment, comme ce message n'était pas pour une seule culture, un seul peuple, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, c'est pour toutes les cultures. Et là, on voit, il y a une très grande souplesse, une très grande flexibilité, en fait. Là, il nous est dit, ben oui, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il ne nous est pas dit que cet enseignement de Pierre durait 3 heures chaque jour. Vous imaginez ? Moi, j'aurais bien aimé. Non, vous moins, hein, vous moins. Voilà, 3 quarts d'heure, c'est déjà assez. Hein. Mais il ne nous a pas dit ça, en fait. Il ne nous a pas dit que ça doit prendre tant de temps. Il faut un temps de louange. Alors, un temps de louange, il y en a qui font ça 1 quart d'heure, d'autres 1 demi-heure, d'autres 1 heure. Il ne nous a rien dit. C'est flexible. C'est souple. La communion fraternelle, elle prend des formes différentes. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un repas. Bon, si on organisait un repas tous les dimanches midi pour 400 personnes, c'est vrai qu'il faudrait une grosse logistique là quand même. Hein. Tout ça peut prendre des formes différentes et a pris des formes différentes. Ce sont des repères qui nous sont donnés. Et pourtant, quand on regarde la croissance numérique de l'église de Jérusalem, on est impressionné. Ça a été rappelé encore l'année dernière, mais je le redis. On est passé de 120 quand même à 3000. C'est pas mal, hein? C'est ce qu'on appelle aux États-Unis une méga church. 3000. Même s'il y en a qui sont repartis. Puis très vite, au chapitre 4, il est parlé de 5000. 5000 hommes. On va dire, bon, il n'y avait pas de femmes dans cette église? Oui, il n'y avait qu'une église d'hommes. Non, mais à l'époque, on ne comptait pas les femmes. Pardon, hein, c'est pas moi qui ai... On ne comptait pas les femmes. Je ne veux pas dire que les femmes ne comptaient pas. On peut traduire ça comme on veut. Mais vous avez ça dans les évangiles, hein, avec la multiplication des pains et des poissons, c'est pareil. On nous a dit qu'il y avait tant d'hommes. On ne les comptait pas, les femmes. Mais elles étaient là. Elles étaient là. Elles étaient bien présentes. Et nous, on les compte. Nous, on compte tout le monde, nous, vous savez. On compte les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. On compte tout le monde. Mais très vite, ça faisait déjà une église avec au moins 10 000 personnes. Imaginez organiser une église comme ça, avec 10 000 personnes, à Jérusalem, au 1er siècle. Et ça a dû aller être plus important encore. Alors, il y a une période de persécution, donc il y en a qui sont partis, mais après, il y en a qui sont revenus. Au point que, lorsque Paul retournera à Jérusalem, dans Actes 21, les chrétiens de Jérusalem vont lui dire, oh, tu verrais tout le monde qu'il y a. Il dit, il y a des milliers de personnes, enfin, des myriades. Le texte, le mot grec, c'est peut traduire myriade, des dizaines de milliers, en fait, à Jérusalem. Où est-ce que vous mettez tout ce petit monde, là, hein? Alors, à Jérusalem, ils avaient la chance, c'est qu'il y avait un temple. Et ils avaient la chance aussi, c'est que, pas le temple, parce qu'ils n'avaient pas, bien évidemment, à l'intérieur, il n'y avait que des prêtres, mais il y avait une esplanade. Il y avait les parvis. Et puis, ils avaient été réaménagés, agrandis par Hérode. Hérode, le grand bâtisseur, qui voulait devenir le nouveau David, le nouveau Salomon. Donc il avait, pendant 40 ans, il avait travaillé pour agrandir cette esplanade. Et ça pouvait accueillir beaucoup de monde. Portique de Salomon, où il se donnait rendez-vous. Donc ça, c'est le lieu où il se retrouvait tous les jours, en fait. Et c'est là que les apôtres enseignaient. Mais ils ne pouvaient pas tout faire, là. Je suppose qu'ils ne pouvaient pas pratiquer le repas de Sainte-Cène, la fraction du pain. Peut-être ça n'aurait pas été très bien vécu. Hein. Faire ça à cet endroit-là, avec les religieux, les chefs religieux, enfin, Il le faisait plutôt à l'intérieur, dans les maisons. C'est là qu'il se retrouvait, en fait, aussi dans les maisons. Il se répartissait par petits groupes. On pense entre 20 et 50, selon la grandeur de la maison. Les plus riches avaient bien sûr les plus belles maisons, plus spacieuses. Ils pouvaient ouvrir leur maison pour accueillir ces chrétiens. Et ça s'est fait comme cela. Alors, Jérusalem était particulier parce qu'il y avait le temple et bien sûr que dans les autres villes, c'était plus difficile. Surtout que les chrétiens n'étaient pas bien accueillis. Donc, il leur restait souvent que les maisons, en fait, comme lieu de rencontre. C'est à partir du IVe siècle, quand, bien sûr, le christianisme a été la religion reconnue par l'État romain, que César lui-même est devenu chrétien. À ce moment-là, ils ont commencé à construire des lieux de culte de toutes sortes et de rassemblements, en fait. Et on s'est éloigné des maisons, bien évidemment, à ce moment-là, pour aller dans ces lieux de culte. Mais la maison, ça reste toujours un lieu excellent pour se retrouver avec les autres. Un lieu de convivialité par excellence, de générosité, d'accueil, de fraternité. Et c'est ce que beaucoup, beaucoup maintenant d'églises mettent en place, de plus en plus. Et c'est ce qu'on voudrait aussi commencer ici. Les grands rassemblements, ils continueront, bien évidemment. Ils ont leurs atouts, leurs avantages. Je pense que pour les apôtres à Jérusalem, c'était plus facile pour Pierre d'apporter l'enseignement dans le temple que de passer dans 200 maisons pour apporter l'enseignement, c'est sûr. Mais en même temps, dans les maisons, il peut y avoir la dimension relationnelle qui ne peut pas y avoir dans un grand rassemblement. Xavier, l'année dernière, a développé cela. Je ne vais pas reprendre cela, les avantages des grands rassemblements avec les plus petits rassemblements dans les maisons. C'est vrai qu'il y a une plus grande visibilité, c'est un encouragement lorsqu'on est nombreux. Si on restait tous les jours avec une église de 4-5 personnes, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Donc, quand on se retrouve en nombre, voilà, il y a la force du nombre, la sécurité que le nombre apporte, la visibilité aussi. Donc ça, ça a sa place, son importance. Pour le témoignage, je suppose qu'à Jérusalem, lorsque ces premiers chrétiens se retrouvaient au temple, c'était une merveilleuse publicité aussi. C'était un lieu de passage. Tout le monde venait par là, passait par là. Forcément, ils entendaient, et en entendant, beaucoup s'y intéressaient. Donc ça donne une visibilité, ces grands rassemblements. Mais les petits groupes permettent toujours l'enseignement, mais plus interactif, participatif, la prière plus individuelle que collective, comme dans les grands rassemblements, mais favorise énormément la communion, en fait. Et la communion, c'est un grand, grand facteur de croissance. La relation avec les autres. Et donc ça, c'est ce qui va pouvoir être fait et développé un peu plus dans le cadre de cette Église, lorsqu'on va offrir la possibilité, tout ça, c'est bien sûr, sera fait sur la base du volontariat, ça va intéresser beaucoup plus les nouvelles personnes, ceux et celles qui arrivent, qui vont arriver, pour pouvoir s'intégrer dans l'Église. Mais c'est quelque chose qui aura sa place pour favoriser la croissance, à la fois la croissance spirituelle des chrétiens, et la croissance numérique aussi, parce qu'il y a la possibilité d'inviter des personnes, des nouvelles personnes dans ces groupes. Ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est ce qui va se mettre en place dans les semaines qui viennent. On va déjà en parler tout à l'heure pendant les annonces. Et on va le mettre en place dans les semaines qui viennent. Mais je voudrais terminer en rappelant que nous qui sommes des pierres vivantes, si nous sommes des pierres vivantes, c'est parce que nous sommes fondés sur une autre pierre, qui est la pierre angulaire ou la pierre principale. Pierre, le bien-nommé, appelle Jésus la pierre vivante, la pierre angulaire ou la pierre principale. À l'époque, vous le savez, je n'ai pas mis les photos, mais on les avait montrées en son temps, du temple de Jérusalem et les constructions de l'époque. On a retrouvé des pierres dans le temple de Jérusalem, des pierres de fondation, des pierres d'angle, qui font plus de 12 mètres de long, 3 mètres, 2 mètres 50. Vous imaginez ces blocs de pierre, et ils étaient taillés 4 kilomètres. Ils ne devaient pas être taillés sur le lieu du temple. Même dans la loi de Moïse, c'était interdit, il ne fallait pas de bruit. On les posait. Donc elles étaient taillées à une certaine distance. Et Pierre prend cette image pour parler de Christ qui est la pierre angulaire. La pierre qui a été, c'est une pierre qui avait été choisie avec soin, bien évidemment, et taillée avec grand, grand soin, parce que vous comprenez bien que si cette pierre n'est pas droite, tout le bâtiment ne sera pas droit. C'est sur elle que tout l'édifice va reposer, en fait. Et Christ est présenté comme la pierre angulaire, la pierre principale. Il est devenu pour nous notre pierre principale. Vous savez, ce qui fait la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, ce n'est pas le fait d'avoir une pierre principale. Ce n'est pas ça. C'est le fait d'avoir Christ comme pierre principale. C'est ça qui fait la différence. Parce que tous les autres, tout homme, toute femme a une pierre principale dans sa vie, en fait. Il ne le sait peut-être pas. Il ne le réalise peut-être pas, mais il a une pierre principale. On a tous une pierre principale, en fait. Luther, dans son commentaire, il a fait un commentaire sur tous les livres, pratiquement, du Nouveau Testament notamment, sauf l'Apocalypse. J'ai toujours été étonné de ça. Il n'a pas voulu s'attaquer à l'Apocalypse. Il a peut-être eu raison. Hein. Tellement eu de bêtises qui ont été sorties par les commentateurs. On a du mal. Hein. Mais il a fait une merveilleuse étude, un merveilleux commentaire sur l'Épître aux Galates notamment. Et dans l'introduction, son introduction à l'Épître aux Galates, il parle il donne un moyen pour reconnaître quelle est notre pierre principale dans notre vie. Comment reconnaître ma pierre principale? Qu'est-ce qui peut me faire dire que cette pierre principale, c'est cela en fait? Et Luther dira que on peut le reconnaître que quand quelque chose ne va pas dans notre vie, chose qui tourne pas rond, mais on n'est pas écrasé par cela en fait. On n'est pas déstabilisé par cela parce qu'on se dit « Ah oui, mais j'ai peut-être pas ça, mais j'ai ça. » Tant que j'ai ça, et Luther dit « C'est le ça qui est la pierre principale. » Et le ça, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être celui qui est très moral, très attaché à certains principes, certaines valeurs, et qui dit peut-être dans une affaire, il va perdre de l'argent, par exemple, ou il va perdre un travail, mais parce qu'il a été dans la vérité, parce qu'il a été, il a respecté ses principes, bien pour lui c'est l'essentiel. Alors peut-être qu'il va souffrir de cela, mais il ne va pas être totalement déstabilisé parce que ce qui est la pierre principale pour lui, c'est-à-dire une bonne morale, de bons principes attachés à cela, c'est le plus important pour lui. Pour d'autres, ça sera autre chose, bien sûr. Pour d'autres, ça peut être la réussite sociale. C'est réussir une carrière professionnelle. C'est ça le plus important. Alors, peut-être si dans leur famille, les choses ne vont pas très bien, pour eux, ce n'est pas le plus important. Pour eux, c'est leur carrière. C'est ça qui. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est leur famille qui compte le plus. Et ce n'est pas tant la carrière professionnelle. Ça va être ça, leur pierre principale, leur pierre angulaire. Pour d'autres, ça sera le sport. Ah, c'est le sport. Mettez ce que vous voulez dans le sport. la santé physique. Tant qu'ils ont cette santé, ben pour eux c'est l'essentiel, c'est le plus important. Le problème, c'est lorsque cette pierre principale est atteinte et elle vacille dans notre vie. Lorsqu'il y a un tremblement de terre là, et qui vient bousculer cela aussi. Et là, tout s'écroule à ce moment-là. Celui qui est très attaché à ses valeurs morales se dit, moi, je suis fidèle à mon conjoint, moi, c'est ce qui compte le plus. Puis un jour, il se fait piéger. Il tombe dans l'infidélité. Et là, cette pierre-là, elle vacille complètement. Il se dit, mais je ne pensais pas être capable de faire ça. Pour celui qui avait tout misé sur le travail, sur une réussite professionnelle, et puis un jour il est licencié, un jour il n'a plus rien, il est jeté. Et dans un plan licenciement, on lui dit « on n'a plus besoin de vous, monsieur ou madame ». Et là, tout s'écroule. Il y en a qui se suicident pour ça. Hein. Parce que c'était leur pierre principale. Pour d'autres, ça sera l'argent. Les biens matériels, alors tant qu'ils ont cela, ça va, puis un jour ils peuvent faire faillite. Et ils font faillite, ils perdent leur argent, comme ça a été le cas au moment du krach boursier, il y en a qui se sont jetés dans le vide. D'autres, c'est le sport. Ouais, mais s'il arrive un accident et qu'on ne peut plus jouer, pratiquer le sport, qu'est-ce qui se passe par la suite? Tout s'écroule à ce moment-là. Cette femme qui raconte son témoignage et de conversion, comment elle est devenue chrétienne, et elle dit « Au départ de ma vie, dans la première période de ma vie, elle dit « J'étais dépendante des hommes. La seule chose que je voulais, c'est d'être aimée par un homme. La chose que je voulais le plus au monde, c'était ma pierre principale. » Et elle raconte qu'à cause de cela, elle a souvent été rejetée par les hommes. Parce qu'elle en demandait trop, parce qu'elle ne savait pas aimer. Elle ne sait pas comment faire. Donc au bout d'un moment, les hommes en avaient assez. Donc elle a eu énormément d'aventures et a recommencé sans cesse pour un jour se dire « mais je ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas possible ». Alors elle est allée voir un psychothérapeute. Elle a raconté son histoire. Elle a dit « ben voilà, moi j'en ai assez. Je ne peux vivre comme ça ». Et vous connaissez la solution que le psychothérapeute lui a donnée? Il a dit, vous avez raison, madame, vous avez raison. Si vous continuez comme ça, vous allez être continuellement en état d'échec, et vous allez vivre le rejet. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous avez quel diplôme? Vous avez un bon diplôme, vous pouvez bien travailler. Oui. Eh bien, misez tout sur une carrière professionnelle. Vous allez avoir un bon métier, une bonne carrière, vous allez une réussite sociale. Et puis vous verrez que avec les hommes, ça changera. Et puis en entendant cela, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me proposer, lui? Il est en train de substituer ma pierre principale, qui est d'être aimée par les hommes, par une autre pierre principale, qui est la réussite sociale. Il a dit, à chaque fois que les choses se sont effondrées dans ma vie, c'est lorsque j'ai été rejeté. J'ai été rejeté par des hommes, mais qui peut dire qu'un jour je ne serai pas rejeté aussi d'une société, d'une entreprise dans laquelle je travaille? Et à ce moment-là, tout va s'écrouler, à nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu l'Évangile, et qu'elle a découvert que Christ pouvait être la pierre principale dans sa vie. Pierre utilise, on peut remettre ce texte de 1 Pierre 2, s'il te plaît, merci. Il dira à la fin, car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus ou dans la honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pierre n'utilise pas ces mots au hasard. Il parle de honte ici et il parle d'honneur. Il s'adressait à une société, une culture qui était fondée sur l'honneur. on pratiquait le culte d'honneur, de l'honneur. Où la chose la plus importante dans ce genre de société, c'était la réputation d'un individu et de sa famille. Si on porte atteinte à cette réputation, c'est la chose la plus terrible. Parce que c'est la chose la plus importante. C'était la pierre angulaire, là. L'honneur. C'est ce qui amène dans la société à pratiquer ce qu'on appelle les crimes d'honneur. C'est souvent les femmes qui sont victimes, justement. Et là, Pierre reprend cela et dit, avec Christ comme pierre angulaire, vous ne serez plus dans la honte, dans le déshonneur. Parce que l'honneur de Christ est pour vous, en fait. L'honneur est donc pour vous qui croyez, sous-entendu en Christ. Christ vous donne son honneur. Il dira ces mots extraordinaires dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale dans Jean 17, lorsqu'il dira à son Père, en parlant de ses disciples, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné l'honneur. L'honneur que Christ mérite, il nous l'a donné en fait. » Ça ne veut pas dire que, en tant que chrétien, on ne va pas être rejeté. Et Pierre parle de ces chrétiens qui sont rejetés. Lui, il en savait quelque chose. Il avait connu la persécution et on sait comment il va finir. On peut être rejeté, on sera rejeté, oui. En tant que chrétien, on faut s'y attendre même. Mais ce n'est pas le déshonneur. Parce que là, si notre pierre principale, c'est Christ, avec Christ, nous avons l'honneur qui va avec, la gloire qui va avec. Et qui reste, quoi qu'il arrive, en fait. Personne ne peut y toucher. Oui, mais pour que Christ devienne cette pierre angulaire pour nous, cette pierre principale, il a d'abord été la pierre rejetée, comme Pierre en parle dans ce texte. Il a été rejeté. Vous savez par qui il a été rejeté? Il a été rejeté par les siens, par son peuple. Jean dira, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté par sa propre famille, par ses amis à Nazareth, ceux qu'il connaissait le mieux. Il est allé à Nazareth et l'évangéliste nous dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, quelques guérisons, parce qu'ils étaient dans l'incrédulité, ils l'ont rejeté. Même ses propres frères et sœurs l'ont rejeté à ce moment-là. Il a été rejeté par ses plus proches amis. Et Guillaume nous en a parlé la semaine dernière, comment Pierre l'a rejeté. Comment Judas l'a rejeté, comment ses disciples l'ont rejeté. Et bien sûr, il a surtout été rejeté par son Père. Dans le but que les rejetés que nous sommes, parce que là nous sommes par nature rejetés par Dieu, ceux qui méritent d'être rejetés par Dieu, nous soyons acceptés et aimés éternellement. Et Christ, qui a toujours été accepté, qui n'a jamais été rejeté de toute éternité. Même ici-bas, lorsque, à deux reprises, son Père dira « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Tu es accepté, tu es béni. Il a toujours été accepté. Et là, à un moment donné, il va être rejeté. Dans le but que pour les rejetés que nous sommes, nous soyons nous acceptés, définitivement acceptés par grâce. Croire en cela, et c'est ce que nous croyons ce matin, c'est pour cela que nous sommes ici. Croire en cela, dans cette bonne nouvelle de l'Évangile, c'est recevoir la vie éternelle. C'est d'être rejeté pour toujours avec la gloire et l'honneur qui vont avec, qui viennent de Christ. Et c'est ce qui fait que nous entrons dans cette Église, en fait. Et que nous devenons des pierres vivantes. Alors si nous sommes ces pierres vivantes, mes frères et sœurs, on fait un édifice. Déjà, deux ou trois, Jésus dira, là où deux ou trois sont réunis, je suis là. Ça suffit. Hein. Mais si on est plusieurs centaines et plusieurs milliers, à partir du moment où nous sommes réunis sur cette base-là, avec Christ comme pierre angulaire, il est là, présent au milieu de nous. Et c'est pour cela que nous sommes ici un dimanche matin, alors qu'il ne fait pas très beau, et que ça n'a pas été facile de quitter la maison, de faire la route. Mais c'est pour cela que nous persévérons, et que nous continuons, parce que nous savons que c'est vital pour nous, parce que nous savons où est notre pierre angulaire, où est notre pierre principale, c'est celle-là en fait. Et lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes persécutés, lorsque les choses vont mal dans notre vie, comme Luther le disait, on a un bon moyen de reconnaître quelle est notre pierre angulaire. C'est dans ces moments-là. On sait si c'est vraiment lui ou si c'est quelque chose d'autre.